culottée, intrépide, audacieuse, entreprenante, puissante, téméraire, aventureuse, pionnière, indépendante. Culottée, le podcast des grandes girls qui donne la parole à des héroïnes du quotidien pour des conversations authentiques et sans filtre. Bienvenue dans le monde de celles qui en ont.
Bah, ou
dans la culotte. La culottée du jour est aussi à l'aise sur un terrain de basket que dans un palais de justice. Kadiatou Tapili, notre invitée, est avocate et basketteuse. Cette hyperactive a la personnalité de feu, a grandi à Strasbourg et porte aujourd'hui sa voix pour lutter contre les discriminations dont elle-même a été longtemps victime. Kadiatou est ambitieuse, persévérante, engagée et forcément culottée. Et coucou les filles, bonjour Katia.
Et coucou Caro.
Ouais, coucou. Et coucou notre invitée, notre première invitée de culottée, Kadiatou Tapili, bonjour.
Bonjour les filles.
Super contente de te recevoir.
Moi aussi, trop contente.
Alors tu viens de Paris, on a profité d'un passage rapide express à Strasbourg, ta ville de cœur, ta ville où tu as grandi, hein, pour te choper et t'inviter à la room et avoir un petit moment avec toi. Et tu entames ce nouveau format de femmes inspirantes, de femmes qui en veulent. Alors, on l'a dit en introduction, tu es avocate, basketteuse, tu luttes contre les discriminations, tu es hyper active, tu es au barreau de Paris, mais tu es quand même alsacienne de cœur. Et du coup, on se posait...
Et tu es culottée.
Ah ben, c'est ça. Si tu entames cette émission, forcément, il y a un sens, tu te doutes. Et on a envie de te demander à toi, en quoi tu es culottée ?
J'adore les culottes.
C'est une bonne réponse déjà.
Voilà, allez, bonne soirée. Non, pas du tout, non, mais culottes.
Ça va bien se passer, ça va bien se passer.
Soufflons. Bah, non, mais le culot, c'est large. Alors, ça dépend, il y a des culottes larges, culottes moins larges. Hein. Mais il y a surtout l'audace dans le côté culot. Et en fait, je pense qu'avoir du sang strasbourgeois, être née et grandie ici, bah, c'est grâce à ça que je porte une bonne culotte aujourd'hui, qui est un peu toutes mes valeurs et toute l'audace que j'ai au quotidien à Paris. Voilà.
Strasbourg, parce que tu dis, si tu avais grandi à Paris ou ailleurs, ça serait pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé particulièrement à Strasbourg ?
Alors, Strasbourg a commencé en 1989, ça ne nous rajeunit pas.
Tu veux qu'on mette une petite musique On n'a pas du tout le même rythme. Que... Je pense... Moi, j'ai voulu faire la musique sicilienne que vous faisiez. Aucun rapport.
Et moi.
Du coup, ça faisait cacophonie, mais on choisira au montage la petite musique la plus adaptée pour accompagner en tapis sonore.
L'histoire a commencé. C'était en 1999.
89.
Un hiver à
89. Mais merci de me rajeunir de 10 ans. J'adore.
Alors, on t'écoute, Kadiatou.
Alors, je suis née à Strasbourg en 89. Très, très diversifiée, Strasbourg. Non, je rigole, évidemment. C'est ça qui fait ma belle culotte aujourd'hui. Et donc, en fait, j'ai grandi dans un environnement où il n'y avait pas beaucoup de Noirs. J'ai grandi à la cité de Lille. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte avec ma mère et mes sœurs qui sont nées au fur et à mesure qu'on était certes une famille forte avec plein de femmes, mais en termes de couleur de peau, on n'était pas non plus beaucoup, quoi. Et du coup, dès l'école maternelle, disons, on m'a dit « Mais pourquoi t'es noire ? Pourquoi tu as tes mains qui sont blanches uniquement ?»
Et donc, t'as été victime de discrimination tout de suite
tout
en
suite.
Démarrant
ouais.
Ta scolarité.
J'ai marché et je pense qu'après, la discrimination a été ancrée, mais sans m'en rendre compte, en fait. Je me suis rendu compte de tout ça, je pense, bien plus tard, il y a peut-être 4-5 ans, en fait.
On va parler de ton parcours tout au long de l'émission, quand même, parce que tu es très active et tu es d'autant plus visible depuis quelques mois, puisque, on va dire, en juillet-août, il s'est passé vraiment un déferlement médiatique autour de toi, autour de Kadiatou. On est ravis, hein, même une vidéo Combini qui culmine à plus d'un million de vues. Mais ça raconte quelque chose, puisque dans ces vidéos-là, on voit vraiment déjà ta forte personnalité et ta grande bouche. Hein, tu es une grande girl, hein, vraiment. Et tu libères la parole autour de sujets qui dérangent un peu parce qu'on se dit mais non, c'est pas possible, la discrimination, faut pas déconner, une avocate noire, à qui ça pose problème? Mais en fait, on se rend compte en s'appuyant sur tes témoignages, sur ce que tu vis au quotidien, que non, c'est encore bien d'actualité. Et tu te fais aujourd'hui littéralement porte-voix.
Tu vas pouvoir parler, t'inquiète pas.
Ou étendard de cette lutte contre les discriminations, en fait.
Ouais. Pourtant, je ne pensais pas que ça allait prendre une si grande ampleur, parce que moi, j'ai toujours grandi avec ça, et je me suis dit, j'en ai jamais parlé, parce que c'était normal. Mais c'est vrai que depuis quelques mois, c'est totalement lunaire. Enfin, on me dit que... Enfin, on me remercie d'avoir dit ce que certaines personnes pensaient, mais n'osaient pas dire.
T'as libéré la parole et du coup, tu es un peu porte-parole.
Ouais, de manière indirecte, mais en fait, je dis juste ce qui m'arrive au quotidien. Et en fait, vu que ça a commencé il y a longtemps, ben, j'ai encore une fois grandi avec ça. Ça a été pendant les matchs du basket, parce que j'ai commencé le basket à l'âge de 11 ans. Comme j'ai pu dire à plusieurs reprises qu'on faisait les signes de singe quand je marquais un panier, ou on me parlait avec un accent africain, ou parfois on me parlait en anglais parce qu'on pensait que j'étais américaine. Alors ça, c'est cool.
Ça, c'est cool.
Ça, c'est archi cool. Je me dis, ouais, c'est stylé et tout. Et puis après, au fur et à mesure, que ce soit pendant mon lycée où j'étais seule boursière, j'étais au gymnase Jean Jetourme, donc pas très loin d'ici. Et on me disait, mais en fait, t'es boursière, donc t'es pauvre, et en plus, t'es noire, donc... Et quelques années avant, on me disait aussi « t'es noire, donc t'es moche ». Donc en fait, tout ça a commencé à bien être dans mon quotidien. Et puis j'ai grandi avec ça, j'ai eu un comportement assez haineux vis-à-vis de la société, dans le sens où je me suis dit que vu que j'étais une femme noire, il fallait que ma mère soit fière de moi, il fallait que je sois un exemple pour mes sœurs, et que je montre qu'en fait, c'est possible malgré tout, quoi. Et... vu que t'es noire, vu que t'es une meuf et vu que t'es moche, t'es obligée d'être drôle, t'es obligée d'avoir la répartie, t'es obligée de faire
d'être bonne élève.
Ouais, d'être bonne élève aussi. Complètement. C'est vrai que j'ai oublié, j'étais intelligente aussi.
Non, mais le syndrome de la bonne élève, c'est aussi une manière d'avoir de la reconnaissance à un autre endroit.
Oui. Ouais, t'es obligée parce qu'en fait, on te ramène toujours à... de toute façon, t'es noire, donc tu t'en sortiras pas aussi facilement que les autres, tu vas devoir travailler deux fois plus. Vu que t'es une meuf, tu vas devoir travailler encore plus. Et si tu parles trop fort, tu vas être un peu trop une grande gueule, donc calme-toi, quoi, grosso modo.
Et donc, du coup, peut-être que si t'avais, en tout cas, cette discrimination t'a aussi donné une force incroyable, parce que j'entends que finalement, tu n'avais pas le choix, qu'en plus de ça, tu voulais montrer à tes sœurs, montrer à ta mère, donc tout ça, ça a été finalement un moteur.
Ouais, ça a été un gros moteur, mais j'ai mis du temps à réaliser que c'était un moteur. En fait, et je pense que c'est quand j'ai explosé au début de ma carrière professionnelle, quand j'avais enfin réussi aux yeux de ma mère et de mes sœurs en étant avocate et dans un grand cabinet américain à la Suits, c'est genre Michelle Obama, Olivia Pope, enfin toutes, Beyoncé, évidemment Rihanna, etc. Une fois que j'avais cette notoriété personnelle, c'est là où j'ai explosé en plein vol et c'est là où je me suis rendu compte que tout ce que j'avais vécu auparavant, c'était juste pour prouver aux autres et... quand ta santé te lâche, tu te rends compte qu'il faut se connaître et apprendre à dire non aux autres et donc oui à toi. Et voilà.
Et juste, j'ouvre la parenthèse parce que tu dis que tu as explosé en plein vol. Tu parles de discrimination, mais on parle aussi de harcèlement au travail, puisque quand tu racontes ton expérience et que justement on te demande d'être à disposition d'arrêter ton sport passion et qu'en plus de ça, malgré des journées de 20 heures, on te dit que ton travail c'est de la merde et que de toute façon t'es pas faite pour être avocate, ça ressemble quand même un peu à du harcèlement.
Ouais, complètement. Et en fait, tu t'en rends pas compte au départ. Et c'est jusqu'au moment où t'as des signaux assez forts, des œdèmes musculaires, des espèces de crampes au niveau de la nuque, etc. Et puis quand ton boss te dit il faut que tu partes parce que non pas que tu fais pas de faute, mais t'es pas faite pour être avocate, ou souviens-toi de tes cours de seconde où on te dit que 95% des enfants font le même métier que leurs parents, donc tu n'as que le choix entre ouvrier spécialisé ou femme de ménage, vaut mieux que tu retournes dans ta case. Et donc là, tu te dis bon...
Mais une fois de plus, tu penses que c'était lié, qu'est-ce qui a fait que, c'est quand même pas partout qu'on traite les gens comme ça. Est-ce que c'était aussi quand même lié à ta couleur de peau ou...
Je pense que la personne était profondément folle déjà, et elle l'est toujours. Et je pense qu'il savait que c'était une corde sensible chez moi, et que j'étais assez sensible par rapport à tout ce qui était sujet de discrimination, qu'il en a profité, clairement. Mais heureusement...
C'était le bouton qui faisait mal, donc on a fait là-dessus.
Heureusement, je ne pense pas que ce soit une généralité.
Donc juste une question, si c'était à refaire maintenant avec la badass que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu dirais dans cet environnement professionnel ?
Je pense que je rirais fort, je serais entièrement moi-même, je reprendrais toutes les passions que j'avais avant. Et puis si un mec me dit ça, je pense que je ne vais pas lui faire plaisir de rester parce que ce serait une perte de temps, je partirais quand même et je ferais ce que j'ai envie de faire tout simplement, sans... avoir peur de ce que vont me dire les autres ou ce que vont penser les autres.
Tu serais partie plus tôt.
Ouais, je serais partie
avant de t'abîmer.
Ah ouais, complètement.
On va venir sur un sujet qui fait partie de ta vie aussi. C'est-à-dire qu'on a parlé de ta casquette, enfin de ta robe d'avocate. On va parler d'une autre passion et aussi d'une activité qui te colle à la peau. Hein. Tu te prépares pour le marathon la semaine prochaine, donc on sait que tu es sportive, mais tu es aussi basketteuse. Vous avez un point commun, les filles, Kadiatou et Katia?
Je ne fais pas de basket.
Je sais, mais tu vas vite comprendre où je veux arriver. Le sport, on va parler du basket et de ton implication au sein de ce sport. Évidemment, puisque tu le dis, ça t'a sauvé à plein d'égards, que ce soit dans ton burn-out ou aussi jeune, voilà. Mais vous avez ce point commun, c'est que vous faisiez des choses pour les garçons. Je vous regarde toutes les deux, parce que quand vous vouliez plaire à votre target, à votre cible,
toi aussi,
non, j'aurais dû. Eh bien, vous pliez en quatre pour épouser véritablement les activités, les passions de la personne ciblée et de ce futur amoureux.
Ah, je vois où tu
veux
en venir.
Pour plaire à cette personne, et toutes les deux, vous avez ce point commun d'avoir voulu montrer une certaine façon. Il se trouve que Kadiatou, aujourd'hui, tu en fais ton activité. Voilà, et tu es une grande basketteuse. Mais je sais que Katia, toi, quand tu avais un garçon qui te plaisait, tu faisais tout pour.
Je me mettais au surf, j'apprenais. Je m'habillais en look surfeuse et j'apprenais tout.
J'adore.
Par cœur.
Elle apprenait
après,
tout par cœur.
Tout par cœur.
Sur
j'avais des fiches Bristol. Après,
est-ce que tu pourrais nous ressortir deux, trois infos autour du monde du surf?
Du surf, Terjan Conson. C'est un des grands champions de surf. Et puis, j'étais habillée en Oxbow. Et puis, j'apprenais aussi tous les résultats de foot, évidemment.
Et tu partais à Biarritz chaque été pour faire... tu t'éteins en blonde surfeuse, tout ça, non?
Évidemment, j'aime toujours le surf, passionnément, bien sûr.
Non, mais c'est rigolo parce que vous avez vraiment ce point commun d'avoir, parce que tu le dis en interview,
oui,
donc
sûr.
On peut en parler de façon très libérée, c'est que tu as commencé le basket pour plaire à un garçon
mais
qui
bien
fait
sûr.
Du basket.
Et un deuxième point, parce que quand tu dis ça, l'autre chose, c'est que finalement, peut-être pourquoi on fait ça? Moi, j'étais pas noire, mais j'étais rousse, et la différence engendre l'exclusion. Donc, rousse à l'école, moi, ouais. c'était pareil, j'étais la seule rousse, et donc on ne m'appelait pas par mon prénom.
Si je peux me permettre, tu es toujours rousse.
Oui, je suis toujours rousse.
J'étais rousse, aujourd'hui je suis teinte en brune. Non, tu es toujours rousse.
Et donc forcément, je pense que je plaisais pas, j'ai poil de carotte, etc. Donc après, tu te dis, ben pour quand même, faut que je sois peut-être quelqu'un d'autre, en tout cas que je fasse, je déploie une énergie ou en tout cas un stratège pour exister ou pour être reconnu.
Ah non, mais de ouf. Et je pense que quand j'étais plus jeune, avant de rencontrer celui qui m'a fait découvrir le basket, et ben dès le CP, j'étais déléguée de classe parce que je me suis dit qu'il fallait que je m'expose autrement. Et parce que j'avais certes des bonnes notes, mais il fallait que je monte ma voix deux fois plus. Donc voilà. Et après, quand j'ai commencé le basket pour ce garçon, eh bien, il est sorti avec une fille de mon équipe et mon cœur a été brisé. Mais après, je me suis dit, il y avait d'autres basketteurs qui étaient beaux, donc j'ai continué le basket et ils jouaient tous à plus haut niveau, donc il fallait que je progresse très vite. Donc j'ai progressé assez vite. J'allais sur les playgrounds, du coup, à la Fonderie, j'allais aussi à la Citadelle. Et en fait, tous les mecs qui me plaisaient sortaient avec d'autres filles de mon équipe qui correspondaient plus aux standards.
Et tu étais dans un environnement, pour le coup, très masculin.
Ah, très masculin.
Toujours. Même si tu as grandi avec des femmes.
Oui, complètement. Ultra masculin. Et j'étais en plus soit sur les playgrounds en été, soit au gymnase pendant la saison. Et je coachais avec des mecs, etc. Donc les mecs étaient mes potes. Et en fait, je me suis dit que j'allais être de tous les beaux gosses, mais finalement dans l'espoir d'être avec l'un d'eux. Mais en fait, tu étais devenu leur frère, quoi. Et puis, bon, il y avait toujours le rappel, c'est trop dommage, c'est trop sympa, mais t'es noir, quoi.
Ouais. C'est quelque chose que t'as entendu vraiment tout le temps.
Ah ouais, vraiment. Et là, à quasiment 35 ans, je pense que je commence à peine à m'en sortir, mais il y a aussi, il faut se le dire, une mode du noir en ce moment. Il y a la mode des femmes noires, alors...
Et la mode des rousses aussi,
ouais,
tu vois, on a une revanche.
Yes,
en ce moment, enfin. c'est les blacks et les rousses en place.
Par contre, c'est pas super la mode d'être vive en ce moment. Pardon.
J'ai pas pu m'en empêcher.
Excusez-moi, je referme la parenthèse. Oui, ma mode d'être noire.
Clairement, par les formes, par la silhouette athlétique, par les lèvres, enfin toutes les femmes qui vont se gonfler les lèvres, qui vont se faire des...
Mais la visibilité, il y a presque une discrimination positive aujourd'hui, même dans...
Alors ça dépend dans quelle profession.
Tout à fait.
Ouais, ça va dépendre. Et donc c'est vrai qu'on prend assez souvent pour une coach sportive aujourd'hui. J'aime bien, hein, mais c'est pas trop mon métier.
Oui, parce que ça, c'est vraiment ce qui revient le plus dans tes témoignages.
Oui.
C'est ce que tu peux ressentir, toi, dans le milieu judiciaire, que ce soit auprès de clients ou même auprès de la profession, où en fait, tout le temps, la petite phrase qui dérape et où tu te fais sentir mise à l'écart, discriminée, c'est un enfer. Enfin, moi, je me mets à ta place.
Mais en vrai, c'est très drôle. Enfin, aujourd'hui, en fait, quand j'étais plus jeune, j'en ai tellement pleuré en vrai qu'aujourd'hui, ben, limite, j'en joue et je me dis, c'est trop dommage que ça a fait autant de buzz sur les réseaux sociaux parce que je peux plus trop en jouer. Maintenant, on me reconnaît quand je vais dans les tribunaux. Donc, on m'embête un peu moins, mais ouais, j'ai eu des anecdotes. Enfin, que vous avez pu entendre. Et c'était aussi comme ça.
Raconte-les pour celles et ceux qui n'en ont pas entendu. Il y a notamment celle où on croit que tu es détenue.
Ouais. Alors, il y en a deux. La première, c'est quand j'étais en audience à Versailles. Je vais avec une collègue et je cherche ma salle d'audience. Et il y a un autre avocat. Il me dit, vous êtes perdue? Je fais, non, mais je regarde. Et il me dit, vous inquiétez pas, de toute manière, attendez votre avocat. Il va vous dire où ça se trouve, etc. Et puis, bon, de toute façon, là, il y a les correctionnels, etc. Et en fait, donc, je laisse parler. Plutôt mignon, le gars. Donc, je le regarde de manière totalement concentrée. Et puis, je reviens. Et puis, il me dit, avec ma robe, il me dit, mais vous êtes cruelle. Et moi, je lui dis, mais attendez, moi, il y a un beau gosse qui me parle, je l'écoute. Donc, ça, je pense qu'il n'a pas apprécié. celle qui a fait vraiment beaucoup de buzz, c'est celle que je disais.
Avec le policier.
Alors, il y a le policier, ouais, quand je rentre dans le tribunal judiciaire à Paris, et pour le coup, on est à Paris, donc quand même, il y a pas mal de diversité, enfin, plus au niveau des prévenus que manifestement des avocats. Je rentre en avance pour une fois, et en fait, une personne du corps policier me dit vous sortez, vous reviendrez après pour vous faire juger. Et donc, en fait, j'ai rien dit. Je suis revenue en ayant mis ma robe. Et en fait, j'ai parlé directement au magistrat en expliquant que tant que cette personne était là, moi, je plaiderais pas, en fait, parce que je ne plaide pas dans ces conditions. Et je pense que si j'avais pas eu tout le bagage acquis auparavant, mais
t'aurais
jamais
osé le faire.
Ah non, j'aurais pleuré devant elle et j'aurais pas bougé. Mais en fait, j'en ai eu tellement que, à force, à part rien dire ou à part me foutre de leur gueule, pardon.
Est-ce que tu t'es forgé des réponses toutes faites ou des... Parce que finalement, après, on met une armure, mais on prépare peut-être aussi, parce qu'on sait tellement que ça va venir, donc on peut préparer. Donc est-ce que t'as trouvé aussi des manières, alors je sais pas si c'est par l'humour ou des phrases toutes faites, t'as trouvé le moyen de répondre?
En fait, je réfléchis pas trop avant de parler, ça du coup, ça me dessert assez souvent, je suis un peu trop spontanée. Et donc quand je n'arrive pas à voir la personne quand... elle va sortir une dinguerie. Et quand elle arrive, je pense que dans mon visage, ça, je vois pas trop. Et c'est là où je réfléchis à comment je vais me venger, en fait. Mais parfois, c'est tellement rapide. Comme je disais, il y a une autre anecdote où je rentre au tribunal à Nanterre et en fait, t'as deux parties. T'as la préfecture d'un côté et de l'autre côté, t'as le tribunal. Et t'as des personnes de la sécurité qui vont me dire, mais cousine, c'est de l'autre côté. Et là, je me retourne, je me dis, ah, en fait, c'est vraiment de moi qui parle. Et donc, je lui dis, pourquoi vous pensez que je suis déjà votre cousine? Je vous ai pas demandé, je vous connais pas. Et puis, en fait, je vais au tribunal judiciaire et il garde quand même la face en disant, mais pourquoi? Parce qu'en fait, je vais plaider et ça me fait pas à force.
Ça te fait toujours sourire. Ouais, si on revient à la première question et au démarrage, tu parlais de Strasbourg et du fait que tu t'es construite par rapport à ton parcours à Strasbourg. Je crois qu'il y a eu des rencontres aussi qui t'ont construite.
Ah non, mais on se connaît. Alors, je me regarde, parce que c'est l'anecdote trop drôle. Je vais quand même raconter comment on a identifié Kadiatou. C'est parce qu'on est tombé sur son profil et que j'ai osé lui écrire sur Instagram pour lui dire « Ah, trop bien, je connaissais pas ton... » Parce qu'elle a liké une de mes photos.
Ouais, c'est une photo de meuble, non? Un truc assez random.
Je sais plus.
Mais ça m'avait plu.
En fait, tu...
Je suis pas une putaclic, juste pour dire ça.
Non. Mais c'est... En fait, je fais jamais attention, pour être vraiment sincère, je fais jamais attention à qui like ou non mes statuts. Et on sait souvent sur Instagram que les premières personnes qui ressortent, c'est des personnes avec qui on interagit le plus. Donc, en vérité, on voit très... Je vois toujours Katia Martin qui like, mais évidemment. évidemment, c'est toujours Katia... Voilà, c'est toujours Katia qui like en premier. Et ma mère, sauf qu'elle a pas Instagram. Mais bon, bref. Et là, il se trouve que je vois une personne qui like une photo de moi qui a la petite certification bleue à côté de son nom. Et donc, je me pose à minuit, je me rappelle très bien.
Vendredi soir.
Voilà, je me rappelle, ne le dis pas trop, c'est Shabbat, vendredi soir à minuit. je me rends compte qu'il y a ce compte certifié que je ne connais pas qui a liké, donc forcément, ça attire mon attention et je vais voir qui se cache derrière ce compte et je tombe sur cette vidéo Combini que je trouve géniale avec un franc-parler, une authenticité. Et puis j'entends à Strasbourg. Et là, je dis en plus, cette femme qui vient de Strasbourg.
Mais en plus de ça, tu nous connaissais.
Oui. Et en fait, c'est ce que je disais à Caro quand on a commencé à échanger, donc dans la nuit de vendredi à samedi.
Elle se rappelle de tout, on dirait. Ouais. La nuit de vendredi, ça a duré 32 minutes et 52 secondes.
Non, mais je passais pour une folle en plus parce que j'ai. Comme tu vois, je suis un peu spontanée, un peu trop même. Et c'est ce que je t'avais dit, c'est que moi, je te voyais à l'époque traîner au niveau de la BNU, des comptades, et je me suis dit, mais en plus, avec une chevelure, mais t'as une lionne qui pèse sur Strasbourg, quoi.
Et c'est toi qui parles.
Non, mais arrête, j'ai des frissons en plus. Je pense que les règles, ça n'aide pas. Je les ai eues il y a peu près une demi-heure.
Voilà. En mode sororité, on prête les serviettes. Mais tu vois, merci. Ça s'appelle culotté, je pense que il fallait que le premier épisode commence sur une note de règles. Tu vois, c'était obligatoire.
Et du coup... quand je te voyais, je me suis dit, mais putain, mais quelle meuf, quoi. Et donc, je t'ai découvert à travers Zut. Et je me suis dit, mais moi, mon rêve, c'est d'être dans Zut un jour, quand j'étais plus jeune. Et après, j'ai découvert, il y a un peu plus de 10 ans, les Grandes Girls. Et c'était vraiment le premier média, en fait, féminin que j'écoutais quand je rentrais de la BNU, du coup. Et c'était sur, je ne sais plus quelle chaîne de radio.
Radio Judaïka.
Oui, exactement. Et du coup, c'était vraiment la première fois où je me suis dit, je suis pas la seule meuf à être aussi enragée, entre guillemets, et aussi qui veut peser dans la société, quoi. Et donc, franchement...
Je suis en train de te filmer, qu'est-ce qu'il y a? Et alors quoi? Et alors quoi?
Et alors?
et en fait, ça me faisait vachement de bien d'avoir des références. Et je me souviendrai aussi une fois, quand je travaillais chez Zara, à la place des Halles, et il y avait Caro, mais ça, elle se souvient pas de cette histoire, et je lui avais parlé, j'étais trop en PLS, parce que j'étais trop fan, en fait. Et j'étais, waouh, elle m'a parlé. Et en fait, j'étais juste aux anges. Et c'est pour ça que 10 ans plus tard, être là, je peux pleurer à tout moment.
C'est les règles.
Ouais, pas que. Et c'est fou, en fait. Et je suis vraiment fière.
Non, mais tu peux être fière.
Et nous, on est fiers de toi. Parce que, en fait, déjà, merci de partager tout ce que tu partages. Merci. On voit que il y a de l'émotion. Et on adore, parce que c'est des moments où on se dit que, on a mis. On sent bien et on est à l'aise pour
se dire. Je oui.
Moi, je pense que c'est ma fille qui m'a filé sa conjonctivite. Non, c'est pas vrai. Oui, il y a de l'émotion. Non, mais ça fait quelque chose. Enfin, je sais pas, Kat, ça fait quelque chose d'entendre. On n'est pas dans un truc de fausse humilité et tout. Mais non. En fait, je me tourne vers toi, Katia. Ça fait 11 ans qu'on fait ce métier, en tout cas qu'on a lancé ce média-là. Évidemment, on sent qu'il y a une communauté qui s'est créée autour de notre émission. On n'a pas toujours de retour. On en a forcément des positifs. On continue d'avancer, à créer des choses. Mais quand on a vraiment des auditeurs et des auditrices qui nous disent que grâce à nos messages ou grâce aux paroles qu'on a pu porter, ça les a éveillés sur des choses. En fait, c'est le meilleur sentiment qu'on puisse avoir, quoi.
Et tu le fais aussi à ton niveau quand
bien
tu
sûr,
es mais... dans. Donc j'ai vu que tu étais dans des trucs d'incubateurs, des pépinières. Quand tu donnes de ton temps, nous, on donne de notre temps avec beaucoup de joie. Hein. C'est avant tout
et beaucoup
un vrai
d'argent
plaisir.
Parce qu'on gagne quand même énormément d'argent.
Mais en fait, d'oser libérer et te dire, et c'est vrai qu'avec ce média, que ce soit la radio ou le podcast, on ne sait pas qui nous écoute, ouais. On ne sait pas qui est de l'autre côté, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après. Quand moi j'anime des formations, que j'ai des séances de coaching, je sais ce qui va se passer, je suis... là, tu ne sais pas. Donc finalement, pouvoir impacter, et quelque part, tu, toi aussi, c'est ce qu'on disait, c'est un peu une chaîne, ouais. Une chaîne de femmes, et se retrouver là, où toi aussi, finalement, tu continues et tu dis aujourd'hui, si je suis une badass... quelque part, on a contribué à ça. Toi aussi, à ton niveau aujourd'hui, que ça soit dans le milieu sportif, associatif, pépinière, en faisant ce que tu fais, en portant ta voix, tu inspires d'autres femmes et peut-être que dans 10 ans, tu te retrouveras à notre place avec quelqu'un qui va te dire...
Je vous ramène les vieilles, les grandes girls. Vous vous rappelez les grandes girls? Elles étaient là.
C'était à une époque
où
il y avait des fils dans les micros.
Oui, c'était les premières à être badass. je prends avec une voix comme si toi aussi.
J'adore.
C'est quoi être badass?
Avoir du culot tout le temps, savoir qui on est, avoir conscience de qui on est et confiance, même si la confiance est un grand mot. Mais avant tout, ouais, je pense d'avoir de l'audace tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Parce que je pense que si j'ai un message que j'essaye chaque fois de transmettre, c'est t'as beau faire tout ce qu'il faut pour correspondre à la société, t'auras toujours quelqu'un pour te critiquer. Donc, tant qu'à faire, fais-le. Et c'est ça pour moi le côté badass. Et aussi, dire à des mecs qui se foutent de la gueule des meufs, par exemple, que c'est pas bien de faire ça.
Surtout qu'on a une date symbolique, on enregistre le 25 novembre, ouais. Quand même, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, donc c'est une journée forte de sens aussi pour nous, et le fait de pouvoir enregistrer un podcast qui ne traite pas forcément de la violence, mais de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu nous partages, c'est de la violence.
C'est de la violence.
C'est complètement de la violence. Verbale.
Ouais. Tu dis, il faut avoir de l'audace, qu'est-ce qui t'a empêché et qu'est-ce qui nous empêche? Parce que finalement, ce que tu dis, c'est que c'est un chemin, tu arrives à 34 ans, tu as mis longtemps à te rendre compte de ce que tu avais vécu, à réagir, à l'exprimer, etc. Qu'est-ce qui nous empêche et qu'est-ce qui t'a pu t'empêcher à plein de moments d'être audacieuse et où tu puisses ta force pour l'être aujourd'hui et être une vraie culottée?
C'est dur comme question.
Ah bah attends.
Je sais pas.
C'est un peu une séance de coaching.
Ouais, c'est un peu une séance de coaching. Est-ce que tu peux refaire la question parce que
très simplement, qu'est-ce qui t'a empêché d'avoir de l'audace avant et qu'est-ce qui fait que tu l'as aujourd'hui?
Le regard des autres tout le temps, le jugement en fait, parce que c'était jamais assez. Mais le jugement de plein de personnes, hein, même s'il était bienveillant, ça reste du jugement. Hein. Enfin, par exemple, ta mère qui te dit oui, fais attention, t'as 25 ans, t'es pas encore marié, t'as pas d'enfant, t'as 30 ans, t'as toujours pas d'enfant. Là, je vais avoir 35 ans en janvier, tu n'as toujours pas d'enfant. Donc il y a ça par exemple, il y a aussi tes amis qui veulent peut-être ton bien mais qui disent attention, par exemple avec les réseaux sociaux, tout ce que tu fais, eh ben, il va y avoir des critiques, etc.
Mais c'est jugement, jalousie, ouais, exposition.
Chaque fois quand je prends la parole ou quoi, eh ben, je me dis je vais le faire quoi qu'il, parce que j'ai tellement été critiquée quand j'étais plus jeune, j'ai tellement souffert quand j'étais plus jeune que...
Parce que tu risques quoi finalement? C'est ça finalement, ouais. C'est la peur du jugement des autres, mais finalement que l'autre me juge...
Ouais, alors c'est pas tout le temps facile, hein, bien sûr, évidemment. Mais effectivement, il faut faire au maximum abstraction.
Voilà. On a parlé du fait que tu faisais du sport, que tu en fais à haut niveau, mais on n'a pas parlé du fait ce que ça t'a apporté. Tu es d'ailleurs très engagée, notamment dans une association qui s'appelle Ladies in Basketball, qui lutte qui justement pour faire de ce sport un vrai sport où la femme et les filles ont toute leur place. Qu'est-ce que tu peux nous... Enfin, finalement, en quoi ça t'a sauvé et en quoi c'est important aujourd'hui d'être aussi impliqué auprès des jeunes filles et des femmes et le sport?
Quand j'étais plus jeune et au basket, si j'avais pas eu des coachs qui étaient à côté de moi et des filles de mon équipe, ne serait-ce que scolairement, je pense que j'aurais pas décroché parce que ma mère était toujours derrière moi. Mais le principe, par exemple, avant chaque match, c'était si t'as pas des bonnes notes dans la semaine, tu joues pas le week-end. Donc, il fallait que tu aies des bonnes notes pour toi, mais aussi des bonnes notes pour les autres, parce que là, tu te rends compte que tu es un pilier de l'équipe, même si tu n'es pas sur le terrain. Donc, tu as cette première chose-là. Et la deuxième, c'est que le sport, ça a été vraiment un exutoire. Bon, alors, je suis clairement hyperactive, hein, je n'arrive pas à rester sur place. Le ciné, ça me saoule parce qu'il faut rester assis. Là, je suis encore assise, mais parce que vous êtes super intéressante. mais donc, ouais, effectivement, il faut vraiment que je m'épuise et là, c'est pour ça que le marathon, je le fais maintenant, parce que c'était un challenge. Le basket, j'avais fait un peu le tour, entre guillemets. Mais j'ai hâte de reprendre. Et aujourd'hui, en fait, je veux transmettre exactement comme on m'a transmis quand j'étais plus jeune. Et je me dis que si les petites qu'on a chez les Ladies and Basketball avaient des modèles un petit peu en termes de couleur de peau, en termes d'origine sociale... Eh bien, ça aurait été différent pour moi. Donc maintenant, à
sorte de mentor.
Donc tu transmets à ton tour.
Je transmets à mon tour.
Ce que tu as donné, tu essaies de le...
Ouais, comme une vieille.
Tout ce que tu as reçu, tu essaies de le donner.
Ouais.
Tu dis souvent que tu as davantage une intelligence sociale et émotionnelle. Pourquoi tu dis ça? Et par rapport à ton métier, en quoi tu t'appuies sur cette intelligence émotionnelle et...
Je me dis que être... Alors moi, je suis du contentieux, donc je gère les problèmes des startups. Et donc, généralement, quand le client vient me voir, il est en PLS, hein, c'est déjà trop tard. Et donc, déjà, il faut l'écouter. Et moi, je sais que je suis une éponge émotionnelle et j'essaye d'avoir... j'ai énormément d'empathie pour les personnes. Et en fait, chaque fois, je me dis que je suis dans un match de basket, on est à 0-0, même si le client il est totalement fautif. Et donc, on va au combat, quoi. Un peu comme ce que j'ai toujours fait dans ma vie. Alors aujourd'hui, je le fais de manière beaucoup plus apaisée, beaucoup moins de haine dans la société, mais on va directement en fight. Et c'est ça qui... C'est ça, je pense, qui fait ma force vis-à-vis des clients. Après, juridiquement, je pense que... Enfin, je suis pas nulle juridiquement, mais je vais pas essayer de trouver la faille jurisprudentielle ou chercher pendant des heures et des heures dans des bouquins. Voilà. Je dis souvent voilà à la fin et
c'est pas grave.
Moi, je me gêne.
Est-ce qu'on on va pas dire
politique de langage.
Ouais.
Est-ce que parce que voilà, malheureusement, l'épisode touche bientôt à sa fin. Donc voilà, finalement, mais on peut encore porter des messages et tu peux encore porter des messages. On t'écoute parler parce que voilà, tu parles.
Si t'avais encore un message à faire passer à ton tour et puis peut-être réfléchir aussi en venant ici en te disant tiens, il y a vraiment un truc que j'ai envie de leur dire.
Ouais. C'est un message que j'ai entendu d'une autre personne qui s'appelle Fatou Ndiaye, que j'ai écouté la semaine dernière. Elle disait que savoir dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Je trouve que c'est très fort parce que moi, pendant très longtemps, j'ai pas dit non pour pouvoir, encore une fois, plaire à tout le monde, de peur de décevoir toutes les personnes autour de moi. Mais en fait, je me suis oubliée et je sais que j'ai grandi... dans le prisme de ma mère. Alors, ma mère, évidemment, que j'adore de tout mon cœur. Mais j'ai fait beaucoup de choses pour qu'elle soit fière. Je suis devenue avocate parce qu'elle m'a dit « T'as des bonnes notes, tu seras ou médecin ou avocate. » J'ai suivi au maximum ce qu'elle me conseillait, mais je commence à vivre que maintenant, en fait. J'ai commencé à vivre à 29 ans après mon burn-out. Et donc, j'ai commencé à... Ma santé a dit non à ma place. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'elle a pu me faire, même si c'était horrible pendant cette période. Et je pense que je suis super épanouie aujourd'hui grâce à ça.
Parce que t'as envoyé un message. Moi, je rajouterais le petit tips de coach et la petite phrase à rajouter. Par amour pour moi, je dis non. Ou par amour pour moi, je dis non. Et finalement, quand tu rajoutes cette phrase, je te dis non, et que tu te dis dans ta tête, par amour pour moi, je vais dire non, c'est pas mal. On arrive à la fin.
On pose ça là et on vous laisse là-dessus. Premier épisode culotté et pas le dernier. Kadiatou, merci beaucoup.
Ah bah merci à vous. Merci.
Tu reviens quand tu veux. À la Rome.
Avec plaisir.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker et le partager.
Et le commenter. On aime vos petits mots. À bientôt. Merci d'avoir écouté Culotté. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, le partager, le liker. Merci à notre partenaire Sepia pour le mixage et la post-production de cet épisode. À très bientôt.